passe chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Les maladies cardiaques peuvent toucher tout le monde, à n'importe quel âge. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de reconnaître une maladie cardiaque ou bien une crise cardiaque? Est-ce que le tabac, le stress, l'obésité, une forte émotion, est-ce que tous ces facteurs peuvent-ils augmenter les risques de faire un infarctus? Et quel hygiène de vie adopter pour protéger son cœur? Eh bien, on en parle, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Dr Yves Lubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Dr Yves, la première question de savoir, nous parlons aujourd'hui des crises cardiaques. De quoi s'agit-il, docteur?
Merci, Jody, pour la question. En fait, une crise cardiaque, en termes du langage courant, en médecine, nous disons plutôt un infarctus du myocarde ou un syndrome coronaire aigu. Il s'agit d'un ensemble de signes cliniques, c'est-à-dire ce que le patient présente, biologiques, c'est-à-dire qui se traduisent par des prises de sang, et électrocardiographiques, c'est-à-dire qu'on arrive à dépister en faisant un examen qui s'appelle un ECG, définissent la fameuse crise cardiaque. En fait, les signes cliniques sont ceux que tout le monde est censé connaître ou doit connaître. Les patients qui ont une crise cardiaque présentent généralement une douleur dans la poitrine. C'est le symptôme phare, c'est le maître symptôme. Mmh. Une douleur thoracique qui réside dans la région du cœur, c'est-à-dire dans l'hémithorax gauche, juste à la région du sein. Cette douleur est généralement un type de constriction, comme une sensation de prise en étau, une douleur qui volontiers irradie. Elle irradie généralement dans le bras gauche ou vers la mâchoire. Et dans les cas très classiques, c'est une douleur qui est résistante à un traitement courant qu'on utilise dans l'hôpital, devant des cas comme ça, qui s'appelle la trinitrine. Donc en somme, une crise cardiaque, douleur dans la poitrine, assez typique, résistante à la trinitrine, est généralement associé à certains autres signes qui sont électriques et biologiques. Voilà un peu. Mmh.
Alors, quelles sont les causes, docteur, des crises cardiaques et ainsi que des maladies cardiaques? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du cœur?
Alors, je dis, les maladies cardiaques ne viennent pas par hasard, même si dans certaines familles, on peut avoir des entités cardiaques chez des sujets très jeunes. Mais généralement, pour avoir une pathologie cardiaque de ce genre, il faut avoir des facteurs de risque de développer cette pathologie. Les facteurs de risque, c'est quoi? En fait, il s'agit des données physiologiques, notamment l'âge des sujets, notamment le sexe des sujets. On sait qu'un individu qui a plus de 55 ans et qui a des sexes masculins a des facteurs de risque de développer des pathologies cardiovasculaires. Il s'agit aussi de certaines données pathologiques, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète sucré, comme l'obésité. Et enfin, il s'agit du style de vie. Dans le style de vie, j'entends par là le tabagisme, le sédentarisme, l'alcoolisme, qui tous concourent à l'émergence des pathologies cardiovasculaires. Donc pour faire une crise cardiaque, dans 9 cas sur 10, le patient doit avoir des facteurs de risque de développer cette pathologie.
Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire que une crise cardiaque ou une maladie cardiaque, c'est il y a tout simplement un problème de circulation des sangs au niveau du cœur?
Oui, vu sur le plan histologique, il s'agit en fait d'un rétrécissement ou d'une obstruction complète de vaisseaux qui nourrissent le cœur. Ce sont des vaisseaux sanguins, donc les artères du cœur. Lorsque ces vaisseaux sont obstrués, ben, il se présente ou il se manifeste chez les patients une douleur dans la poitrine. Cette douleur ne restera pas éternelle, donc elle va prendre quelques heures, voire deux jours maximum. Après, elle va s'amender. C'est pour ça que ça passe souvent inaperçu. quand elle va s'amender, ça fait seulement un signe pour dire que la partie du cœur qui souffrait est complètement morte. Donc, quand on a la douleur, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cœur qui n'est plus correctement irriguée, mais c'est un signe d'alarme pour que le médecin instaure un traitement qui va reperméabiliser cette artère. En revanche, si le patient garde cette douleur à la maison pendant 48 heures, elle va s'estomper d'elle-même. Le seul problème, c'est qu'en s'estompant, ça voudra dire que la partie du cœur est morte. Et donc, quelques semaines après, il va commencer à développer ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'il est essoufflé, ou carrément, il peut développer une mort subite. C'est-à-dire que cette cicatrice qui reste sur le cœur va entraîner un trouble de rythme cardiaque qui va arrêter le cœur. Voilà.
Voilà. Des questions et préoccupations, appelées au 081-890-63-94. Docteur Yves, d'après certaines personnes, une forte émotion peut aussi être à la base d'une crise cardiaque. Par exemple, quelqu'un qui regarde un match de football et son équipe préférée risque d'être battue. Et puis, ben voilà, la personne, des cas comme ça sont arrivés, des personnes qui ont piqué des crises devant la télé et après, elles sont mortes.
Oui, je dis effectivement, les pathologies cardiovasculaires sont très dépendantes d'un système nerveux que nous appelons le système nerveux sympathique, qui lui-même est dépendant de certaines hormones qu'on appelle notamment l'adrénaline. L'adrénaline, vous savez tous que c'est une hormone qui est produite en grande quantité pendant le stress. Donc du coup, lorsque une personne est exposée à un stress de ce genre et que cette personne a déjà une fragilité vasculaire, aussi bien au niveau cardiaque qu'au niveau cérébrovasculaire, eh ben oui, il peut développer un événement cardiovasculaire de type soit un AVC hémorragique parce qu'il va monter très fort sa tension, soit un syndrome coronaire aigu, donc un authentique infarctus du myocarde. Mais comme je dis, cela survient généralement chez des personnes qui ont déjà des dispositions vasculaires pour.
Voilà. Des questions et préoccupations, appelées au 081-890-63-94. Nous parlons aujourd'hui de la prévention des crises cardiaques avec Dr Yves Lubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Alors, docteur, à part, vous avez parlé d'une douleur thoracique qui irradie. Quels sont les autres signes qui peuvent alerter le patient ou son entourage?
En fait, les manifestations du syndrome coronaire aigu sont de plusieurs genres. Le premier genre, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, donc une symptomatologie classique typique avec une douleur thoracique qui intéresse la région du cœur et qui migre vers la mâchoire inférieure ou le bras gauche, résistante à certains médicaments, notamment la trinitrine, mais il y a des formes plutôt atypiques. Dans les formes atypiques, les patients ont des douleurs qui résident au niveau de la région de l'estomac, je répète, au niveau de la région de l'estomac, qui mime donc une douleur de type gastrique, mais qui en fait est une douleur authentique liée au cœur. Ça, c'est vraiment des formes qui passent souvent inaperçues et qui sont les plus fatales. Une autre forme qui est encore la plus brutale, c'est l'arrêt cardiaque. Quelqu'un peut être en train de faire son infarctus, eh ben, il arrête son cœur directement. La forme d'arrêt cardiaque, généralement, c'est des arrêts cardiaques qui surviennent en dehors de l'hôpital, nous disons arrêt cardiaque extra-hospitalier. Oui. Et dans ces formes-là, dans notre environnement, ici à Kinshasa en l'occurrence, ça correspond à une mort irrécupérable. Tout simplement parce que lorsque quelqu'un s'écroule dans la rue, dans la plupart de cas, il n'a qu'une autre personne qui sache comment secourir, administrer les préparations de secours. Premier volet. Deuxième volet, il n'existe pas de structures ambulancières qui peuvent se déplacer sur Kinshasa en moins de 5 minutes pour réanimer un patient. Et enfin, lorsqu'on arrive en milieu hospitalier, il y a certaines structures hospitalières qui ne sont pas équipées pour prendre en charge un arrêt cardiaque. Donc, voilà un peu les trois tableaux classiques de cette pathologie.
Comment prévenir les crises cardiaques? Boulembo nous appelle de Kinshasa. Nestor est à Lubumbashi. Vous voulez également participer, appelez au 081-890-63-94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous parlons aujourd'hui de la prévention des crises cardiaques avec Dr Yves Lubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Boulembo nous appelle de Kinshasa et Nestor de Lubumbashi. On commence avec vous, Boulembo. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour. C'est Boulembe.
Boulembe. Bien, Boulembe, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonjour.
Oui, moi, je voulais justement savoir, parce que en arrivant à l'intervenant, c'est comme si vous voulez nous dire que des fois aussi la maladie cardiaque est provoquée aussi par l'héritaire, des causes héréditaires.
Oui, Boulembe, parlez un peu plus fort.
C'est ça, je voulais juste savoir, parce que l'invité parlait que la crise cardiaque est provoquée aussi par des causes héréditaires.
Oui.
Alors, et c'est pour cela que je voulais savoir, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai déjà 28 ans, et que ma mère a souffert de cette maladie il n'y a pas longtemps, récemment, en 2001, suite à une situation qui nous était venue. Alors, est-ce que, concernant ça, quand moi, aujourd'hui, je suis attrapé par cette maladie, on dirait que c'est héréditaire ou comment?
D'accord, merci. Nestor de Lubumbashi, bonjour. Nestor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Alors, il y a beaucoup de bruit là où il est, on ne sait pas l'écouter. Docteur Yves, vous avez suivi Boulembe de Kinshasa qui dit que sa mère a eu une crise cardiaque dernièrement. Il n'a pas dit pourquoi. Alors, il a 28 ans et il s'est dit, est-ce que, comme c'est une maladie qui est aussi héréditaire, est-ce que il n'est pas... Il peut pas faire une crise prochainement dans sa vie. Il est un tout petit peu inquiet, on a senti.
Oui, on a senti, en effet. Je le remercie d'être intervenu. En fait, l'hérédité constitue, dans la plupart des pathologies non transmissibles cardiovasculaires, le socle sur lequel s'égreffent les autres facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, dans les familles... il existe une tare dans les familles des coronariens. Donc, il existe une tare qui se transmet généralement de génération en génération. Du coup, ça ne veut pas dire que tous les descendants vont hériter de la maladie des ascendants. Pour que le descendant développe l'entité, il faudrait que ce descendant qui a en plus cette tare puisse avoir un conglomérat de facteurs de risque cardiovasculaire qui, mis ensemble, vont converger vers l'émergence de la pathologie coronaire. Donc, pour M. Boulembe, il n'a pas trop à s'inquiéter. Il a probablement, sur le plan héréditaire, la même cartographie, si je puis m'exprimer ainsi, avec ses parents, mais il n'est pas forcément sujet à développer cette pathologie demain. C'est d'ici, d'ailleurs, que émerge le facteur ou la notion de la prévention. Parce que lorsqu'il existe des facteurs de risque qui sont non modifiables, comme c'est le cas de l'hérédité, okay, on appesantit tous les efforts sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Vous les avez cités en début de l'émission, notamment le tabagisme. Quelqu'un qui fume comme une locomotive, alors qu'il a déjà une tare ou dans sa famille, il y a des patients qui sont des gens qui sont coronariens. Eh ben, celui-là, nous pouvons agir sur son tabagisme de manière à ce qu'il soit complètement sévré. Ça l'expose moins à développer la pathologie. C'est la même chose pour des pathologies comme l'hypertension artérielle. Si on a une famille de coronariens et que l'on développe une hypertension artérielle et que manifestement on refuse de se faire soigner, eh ben on va tout droit vers un infarctus, entre autres. Alors que si le patient a été bien contrôlé quant à sa maladie hypertensive, il ne développera pas la maladie. Pour me résumer, je dirais à M. Moulembe que l'hérédité est un socle. Mais pour que la maladie émerge, il faut vraiment qu'on puisse, sur ce socle, superposer plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire.
Voilà. Bien. Nous avons Elodie en ligne de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, docteur Yves.
On vous écoute.
Ok, docteur Yves, je ne sais pas si je l'ai mal compris, mais il a parlé aussi de les portes, la tension artérielle. Par contre, moi, je fais régulièrement des crises de l'hypotension. Et aujourd'hui, vous avez fait un commentaire, vous avez dit, on peut comprendre que la difficulté de circulation dans les sangs, c'est ce qui cause souvent la tension. Moi, je vais connaître maintenant, comme j'ai fait l'hypotension régulièrement, est-ce que je suis susceptible de faire une crise cardiaque? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai aussi souvent je fais des crises au niveau de l'estomac. Maintenant, pour différencier cette douleur-là, comment je vais les différencier? Si c'est une douleur seulement pour mes problèmes d'estomac ou c'est une douleur qui est liée à l'un des signes des crises cardiaques? Voilà un peu mes deux préoccupations. Je ne sais pas si je suis claire.
D'accord. Oui, je crois que c'est clair. Docteur Yves, vous avez la parole.
Oui, madame, c'est très clair. Alors, je commence par répondre à la première préoccupation. L'hypotension artérielle ne constitue pas un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Donc, lorsqu'un sujet a tendance à avoir plutôt une tension basse, c'est-à-dire en dessous de la tension normale, elle n'est pas exposée à faire des pathologies de type syndrome coronaire aigu. En revanche, une tension basse mérite d'être corrigé parce que la personne peut présenter des pertes de connaissance tout simplement parce que la quantité de débit sanguin cérébral s'est rabat et donc on peut perdre connaissance. Mais ça ne l'expose pas à proprement parler aux maladies de type crise cardiaque. Alors pour revenir à la deuxième question, c'est assez fondamental. Lorsque quelqu'un a mal dans la région de l'estomac, c'est-à-dire juste au milieu de l'abdomen, un peu au-dessus. Dans la plupart des cas, les gens considèrent que c'est un problème gastrique. Effectivement, dans la plupart des cas, c'est un problème gastrique. Sauf que des études ont montré que entre 10 et 20% des cas, il s'agit d'un syndrome coronaire. Donc, il s'agit d'une crise cardiaque. Alors, du coup, comment différencier les choses? Sur le plan des symptômes, ce n'est pas possible. Parce que la manifestation clinique, donc ce que vous ressentez, est pareil. La différenciation va se faire par d'autres explorations. J'ai dit en prélude de mon intervention que dans la définition de la crise cardiaque, il y avait aussi des facteurs biologiques ou des facteurs électriques. Donc, quand on a mal dans la région de l'estomac de manière assez récurrente, ce serait pas mal d'aller voir un médecin. Ce dernier va demander ces examens-là, examen biologique notamment, c'est un examen qui s'appelle la troponine ou un examen électrique qui s'appelle un électrocardiogramme. Avec ces deux examens, on va éliminer, donc infirmer ou confirmer l'origine cardiaque de cette douleur qui règne dans la région de l'estomac. Moralité, quand on a mal dans la région de l'estomac, faut éviter de s'automédiquer et de s'auto-diagnostiquer, si je puis m'exprimer ainsi.
D'accord. Benjamin nous appelle de Calémie. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Gédi, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Benjamin?
Oui, je voulais juste demander à l'invité, parce que moi, ici, j'ai une voisine qui a cette maladie, qui a attaqué vraiment avec cette maladie. Bon, je voulais juste te demander est-ce que cette maladie est transmissible ou quoi. Parce que c'est moi qui pars souvent en acheter des médicaments et autres. Et cette maladie, ça c'est la deuxième question. Est-ce que cette maladie peut facilement tuer ou quoi? C'est ma question.
Merci. Martin, vous êtes à Kindou. Bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Ok, moi j'ai des préoccupations. J'ai un ami. Et lors de la chaîne, l'Ichan ici, il avait piqué la crise cardiaque, il avait parié, mais il était moins de 55 ans. J'ai suivi l'invité, il a dit l'âge c'est de 55 ans. Et la deuxième préoccupation c'est de savoir, moi j'ai à peu près 30 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les moyens de précaution que je peux prendre pour que je n'arrive pas à ces situations?
Votre ami a moins de 55 ans, il avait piqué une crise devant la télé?
Oui, oui, oui. Lors du chant l'année passée, il avait piqué une crise, mais il avait moins de 55 ans. Moi aussi, quelles sont les précautions que je peux prendre pour que je n'arrive pas à ces situations-là?
D'accord. Docteur Yves.
Ok. Merci aux intervenants pour leurs questions. Je commence par le premier intervenant.
Oui.
Les pathologies cardiovasculaires font partie du groupe de maladies dites chronique non transmissible. C'est-à-dire que en côtoyant la personne, on ne va pas être contaminé par la maladie qu'il est en train de présenter. Donc, que notre ami ait ses apaisements, il oui. peut côtoyer le patient ou la patiente sans risquer de contracter la même pathologie. Alors, pour sa deuxième préoccupation, savoir si cette maladie est mortelle, j'aimerais insister en lui disant que c'est la première cause de mortalité de par le monde. Donc, s'il y a une maladie qui tue plus que toutes les maladies dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et dans les maladies cardiovasculaires, c'est surtout les pathologies coronaires, celles dont on est en train de parler maintenant. Et quand je parle du monde, c'est généralement le monde moins l'Afrique. Parce que, malheureusement, en Afrique, nous sommes souvent en manque de certaines données scientifiques. Néanmoins, sur les données locales, on sait que ces pathologies sont très, très émergentes. Il n'y a qu'à voir le nombre des patients qui font des AVC. Mmh. Et donc, c'est pratiquement, c'est presque la même pathologie, en fait. Donc voilà, c'est très mortel. C'est comme ça que le meilleur volet de la prise en charge repose sur la prévention. Parce que lorsqu'on a déjà développé la maladie et qu'on a, on a entamé la fonction cardiaque, généralement, on ne la récupère pas. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il y a un traitement approprié pour les maladies cardiaques?
Oui, pour la fameuse crise cardiaque. Oui, oui je dis, il existe des traitements qui réussissent d'ailleurs à 100%. Hein. Mmh. Le problème, c'est que pour faire, par exemple, ce traitement à Kinshasa, c'est assez compliqué. Je m'explique, je vais être très bref.
Oui.
Deux volets de prise en charge. Un patient fait un syndrome coronaire aigu, il est à l'hôpital. Nous avons deux moyens de le prendre en charge, soit en utilisant des médicaments. D'accord. Mmh. Pour utiliser les médicaments, ce sont des médicaments qu'on appelle des thrombolytiques. Ce sont des médicaments qui vont aller déboucher les artères. Ces médicaments sont très, très onéreux, parce que très rares, mais ils sont onéreux de par le monde, et très, très difficilement disponibles. Par exemple, le flacon qui est utilisé pour faire une thrombolyse pour un patient qui fait un syndrome coronaire aigu est de l'ordre de $2,500 à peu près. Ça, c'est juste pour vous donner une idée.
Oui.
Et encore que pour que ça marche, il faut que la douleur que le patient a commencé à présenter remonte à moins de 6 heures. C'est-à-dire que s'il a commencé son syndrome coronaire aigu à 6 heures du matin, on doit le soigner avant 12 heures. Au-delà de 12 heures, ce médicament-là ne marchera plus. Deuxième type de traitement, c'est un traitement interventionnel. C'est-à-dire qu'on doit l'amener dans une pseudo-salle d'opération,
oui.
qui est ce qu'on appelle une salle de cathétérisme cardiaque, où on lui fait un examen mécanique. On introduit un petit dispositif dans son artère jusqu'au cœur, et ça débouche l'artère. Comme quand on doit déboucher un tuyau avec un bâton. Mmh. Voilà, ça se passe comme ça. Ce traitement, c'est le gold standard, c'est celui qu'on fait partout dans le monde. Le problème, c'est que ce traitement n'existe pas à Kinshasa. Aucun hôpital à Kinshasa ne possède cette technique. Donc, vous le faites à Kinshasa. Mmh. Après 6 heures, okay, qui que vous soyez, ben, vous allez perdre votre cœur.
Voilà. Avant de répondre à Martin, nous allons accueillir Angèle de Kikwit. Bonjour Angèle, et quelle est votre question?
Bonjour à l'invité.
Bonjour madame.
Je voulais juste savoir, c'est la même question que Mme Elodie a posée, c'est la différence entre le syndrome gastrique et puis l'infarctus du myocarde. Maintenant, je voulais avoir une précision. Est-ce que les douleurs gastriques qui sont un peu atténuées quoi, par le traitement du genre gastrique, est-ce que ça pousse les malades à aller faire la biologie pour faire la différence entre l'infarctus et le traitement, le douleur gastrique, ou bien il peut s'arrêter là, parce que quand il a les douleurs du type gastrique et qu'il prend les médicaments pour la gastrique, le malade est soulagé. Est-ce qu'il peut continuer avec la biologie pour faire la différence avec l'infarctus ou comment?
Docteur Yvan.
Ok. Bon, je réponds directement à madame. Ça constitue un peu un traitement de preuve. C'est-à-dire que vous avez mal, vous prenez un médicament à visée digestive qui soulage la douleur. Bon. Il y a 95% de chances que ce soit vraiment d'origine digestive. D'accord? Donc, à ce moment-là, faut-il aller à l'hôpital? Je dis toujours oui. Pour quelle raison? C'est que la maladie gastrique digestive évolue, en fait. Ce que vous prenez comme médicament est un pansement. Et donc, il n'est pas curatif. Et donc, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle va entraîner un ulcère, une plaie dans l'estomac. Cet ulcère va se traduire par des hémorragies digestives. C'est-à-dire que le patient va commencer à vomir du sang. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est encore plus fatal parce que quand on vomit du sang, on a quelques minutes seulement pour arriver à l'hôpital, se faire transfuser et aller dans l'estomac pour arrêter cette hémorragie. Je ne pense pas qu'on le fasse partout à travers le pays. Je connais des éminents gastro-entérologues qui le font sur Kinshasa, mais à l'intérieur, c'est pas évident. Donc moi, je conseille à la patiente, si elle a une douleur dans la région de l'estomac et que, visiblement, c'est soulagé par le médicament, elle ne perd rien à aller à l'hôpital pour deux raisons. Être sûr vraiment que ce n'est que gastrique. Et pour la deuxième raison, se faire soigner une fois pour toutes pour cette pathologie digestive parce qu'on peut en guérir. Voilà.
Voilà. Revenons-en maintenant à la question de Martin de Kindou. Il dit que son ami avait parié pour un match. Il avait piqué une crise devant la télé. Et oui. Son ami a moins de 55 ans. Et lui, et Martin a 30 ans. Il a un peu peur. Il est inquiet. Il veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour prévenir une crise cardiaque.
Alors, pour répondre à Martin, le seuil de 55 ans, c'est un seuil défini par les conventions scientifiques. Mais ce n'est pas exclusif, en fait. Généralement, on peut faire un syndrome coronaire aigu à 35 ans. Un patient qui fume du cannabis, un jeune homme qui fume du cannabis, qui a 35 ans, okay, qui fume du cannabis depuis plusieurs mois, il est sujet à faire un infarctus du myocarde, en dépit de son âge. Donc, un parieur qui a la cinquantaine ou un peu moins, qui est déjà sujet à des facteurs de risque cardiovasculaire, peut développer sa crise cardiaque et même en mourir lors d'un pari ou d'un stress lié à un match de football parce qu'il a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il ne faudrait pas faire une fixation sur l'âge. Ce n'est pas le seul facteur de risque, il y en a plein. Et c'est justement la conjonction de tous ces facteurs qui favorise l'émergence de la maladie coronaire. Pour lui-même qui a la trentaine et qui est un peu inquiet, le conseil que je peux lui prodiguer, c'est celui d'avoir une activité physique régulière pour lutter contre la sédentarité. Vous savez, à Kinshasa ou ailleurs, de plus en plus, on est moins actif sportivement que l'ont été nos ascendants. Et donc du coup, la sédentarité émerge comme un facteur de risque cardiovasculaire qui expose les patients à l'obésité. L'obésité elle-même est un facteur de risque cardiovasculaire et donc expose les patients à faire un syndrome coronaire aigu. Donc je lui demanderai d'avoir une activité physique régulière,
oui.
De perdre du poids s'il est en surpoids, d'arrêter de consommer du tabac s'il en consomme ou de l'alcool. Je lui demanderai s'il est hypertendu ou s'il est issu d'une famille d'hypertendus d'éviter de consommer beaucoup de sel. Et enfin, s'il est un sujet diabétique ou avec un problème de cholestérol, de bien veiller à sa glycémie et à son alimentation.
Bien. Ouais. Espérance est à Kinshasa, Shukrani à Kindu. Espérance, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ben, je crois que l'invité venait presque de répondre à une partie de la question que j'avais. Ma question était aussi celle de savoir si on sait déjà qu'on vit avec la personne qui a cette maladie-là. Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour arriver à faire à ce qu'il ne puisse pas arriver à ces crises? Et, ma deuxième question était également celle de savoir, en tant que profane, qui ont vit avec la personne qui a l'habitude de faire des crises cardiaques. Dès que la personne tombe dans ces crises-là, est-ce qu'il y a des mécanismes, soit une façon de récupérer la personne avant que de l'envoyer à l'hôpital, ou qu'est-ce qu'on peut faire au risque de ne pas perdre la personne, de récupérer avant d'arriver avec lui à l'hôpital?
D'accord. Shukrani de Kindu, bonjour. Quelle est votre question?
Oui. Bonjour, jeudi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je pense qu'on était à la même optique que la dame qui venait d'intervenir. J'aimerais au moins savoir quelles sont les positions on peut mettre une personne qui tombe avec une crise cardiaque. Si je l'ai bien suivi aussi, cela me pousse à demander la deuxième question. Il nous a dit que la maladie de la crise cardiaque est héréditaire. je ne sais pas, bon, je ne suis pas du tout de son domaine, mais il a dit non, ça peut être causé aussi par les tabagistes, parce que comme moi, je suis né d'un papa Milan Boyuma et la maman Suzanne, par exemple, moi, que ces deux parents, l'un, suite à son tabagisme, il a eu à avoir une crise cardiaque. Est-ce que moi aussi j'en ai ou pas? Voilà au moins, qu'ils comprennent au moins mes interventions.
Soukani, voilà, Soukani, est-ce que vous fumez aussi comme votre père?
Non, je ne fume pas. Mon papa aussi ne fume pas. Est-ce que si maintenant, par exemple, entre les deux, il y a l'un qui se met maintenant pour fumer et qui trouve à avoir la crise cardiaque, est-ce que moi aussi je peux l'avoir ou pas? Voilà au moins mes interventions et quelles sont les positions à mettre une personne qui tombe avec une crise cardiaque. Voilà mes interventions aujourd'hui.
D'accord, merci. Dani de Kinshasa, bonjour. Et quelle est votre question?
Et bonjour. Et ma question est la suivante. Moi, j'ai un cas pareil. J'ai des jumelles. L'un de ces deux jumelles a ce qu'on appelle la crise cardiaque. Même une simple épidémie, l'enfant va présenter une faiblesse exagérée et l'enfant ne sait plus courir comme il voit souvent ses amis en train de courir. Je demande qu'est-ce que je peux faire avec cette maladie à l'invité.
Elle a quel âge votre jumelle là?
La jumelle a quel âge?
L'enfant a à peu près 4 ans.
Ok.
À peu près 4 ans et 2 mois ou 3 mois.
Et comment savez-vous que l'enfant souffre d'une crise cardiaque, a des problèmes cardiaques?
L'enfant n'est pas sur place à Kinshasa, il est dans un district comme ça. On l'a amené plus de 4 fois à l'hôpital et ce sont les médecins de là qui ont prescrit, qui ont déterminé que ce sont des signes de cette maladie-là.
D'accord. Docteur Yves.
Ouais, alors je vais commencer déjà par réagir à l'intervention la toute dernière. À l'âge de 4 ans, voire moins, on ne fait pas de pathologie coronaire. Les pathologies coronaires étant des pathologies qui sont sur le plan histologique caractérisées par une destruction ou une altération des vaisseaux qui nourrissent le cœur. À 4 ans, on est encore trop jeune et donc pas exposé à une altération de la vascularisation intracardiaque. En revanche, si cette fille a des symptômes cardiaques, c'est peut-être ce qu'on appelle des pathologies cardiaques congénitales. Donc, c'est des malformations cardiaques congénitales qui donnent des symptômes de type cardiaque chez les tout jeunes enfants. Donc, plutôt que de penser à un problème coronaire, donc une crise cardiaque, on peut s'orienter différemment, et je pense que c'est ce qu'on doit faire, vers un autre diagnostic. Parce que le syndrome coronaire à 4 ans, ça n'existe pas. Voilà un peu pour le monsieur. Donc, il faut que cet enfant soit vu par un cardiopédiatre qui déterminera l'existence ou non d'une cardiopathie congénitale. Et si celle-là existe, il va proposer les moyens thérapeutiques qui, généralement, d'ailleurs, sont efficaces et guérissent les patients à 100%.
D'accord. Espérance de Kinshasa dit comment prévenir une crise cardiaque. Et puis, lorsqu'une personne, vous êtes avec un membre de la famille qui pique une crise, alors quels sont les gestes à poser d'urgence avant de voir le médecin?
D'accord. Alors, je vais revenir sur le fameux terme crise. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par crise, mais je sous-entends que c'est quelqu'un qui perd connaissance d'origine cardiaque. Donc, en sous-entendant que quelqu'un perd connaissance à cause d'un problème cardiaque, qui avait peut-être comme signe avant-coureur une douleur dans la poitrine, donc qui fait un arrêt cardiaque. J'ai animé une émission, je pense, sur Radio Capi là-dessus aussi. L'arrêt cardiaque est une urgence. C'est une urgence qui doit être prise en charge à l'hôpital. Néanmoins, l'entourage doit savoir exécuter certains gestes qui sauvent la vie. Ces gestes qui sauvent la vie sont, d'abord, être sûr qu'il y a un arrêt cardiaque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement respiratoire. Première chose. Deuxième chose, que lorsqu'on prélève la pulsation du patient au niveau des vaisseaux carotides dans le cou, il n'y a pas de battement cardiaque. Donc, arrêt cardiaque égale perte de connaissance, pas de battement cardiaque, pas de mouvement respiratoire. Donc, si ce patient qui est dans cet état doit être acheminé à l'hôpital, il va mourir avant d'arriver à l'hôpital. Donc, la personne qui est avec ses patients ou cette personne doit pouvoir l'étaler à même le sol et commencer à exécuter ce qu'on appelle un massage cardiaque. C'est-à-dire, il se met en califourchon sur le patient, il pose la paume de ses deux mains au niveau de la région basale du thorax, juste au milieu à la base du sternum, et il exécute des compressions de la cage thoracique. Généralement, on recommande 100 compressions par minute. Et au bout de chaque minute, on fait une petite ventilation, c'est-à-dire on insuffle un peu de l'air. Bon, c'est une méthode de plus en plus, la ventilation est de plus en plus reléguée, mais bon, ça sert toujours. Ça va permettre au patient d'avoir une activité vasculaire qui existe encore pour qu'il n'y ait pas une mort cérébrale. Et des fois,
on insuffle de l'air dans la bouche ou
Bon, en milieu hospitalier, on utilise un dispositif qui s'appelle un ballon d'embut, et donc il y a un souffle de l'air qui masque la région nasale et buccale, et donc l'air passe dans les deux voies. Mais initialement, on faisait des insufflations par la voie buccale, mais c'est de moins en moins recommandé de toutes les façons. Donc moi, ce que je recommande aux patients, c'est juste un massage cardiaque, okay, compression cardiaque pendant environ 100 pendant une minute, c'est à répéter, il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs. Pendant ce temps-là, il y a un opérateur qui appelle les secours. Les secours, c'est généralement un hôpital, un système ambulancier, donc qui va se déplacer sur place pour prendre le relais. Bon, est-ce que c'est faisable dans notre environnement? C'est très discutable. Néanmoins, cette méthode qu'ils vont mettre en route peut permettre de récupérer un patient sur 5, déjà à domicile, et de l'acheminer à l'hôpital. Voilà un peu. C'est une méthode qui a été expliquée assez longuement lors d'une émission. Je pense qu'on y reviendra aussi, de toutes les façons.
D'accord, on retient que pour prévenir la crise cardiaque, il faut éviter la sédentarité, il faut perdre du poids, arrêter les tabacs et l'alcool, éviter... Il y a aussi l'alimentation, il faut veiller à l'alimentation, éviter le cholestérol.
Tout à fait. Il faut veiller à l'alimentation parce qu'elle est très pourvoyeuse d'une augmentation du taux de cholestérol, du mauvais cholestérol, lequel est à l'origine d'un phénomène médical qui s'appelle l'athérosclérose. Et cette athérosclérose sera le socle sur lequel va se greffer le syndrome coronaire, donc la crise cardiaque. Donc l'alimentation de qualité fait partie de la pierre angulaire, en fait, de la prévention des maladies cardiovasculaires.
Et pour les personnes qui souffrent de l'hypertension, peuvent-ils éviter aussi les fortes émotions, comme d'ailleurs nous allons jouer les dimanches avec les léopards vont croiser l'équipe du Ghana et je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Docteur, quel conseil vous pouvez donner aux hypertendus?
Je demande déjà aux hypertendus d'être sûr que leur tension est contrôlée. Parce que souvent, c'est ça le problème. On est hypertendu, on n'est pas soigné. Lorsqu'on n'est pas soigné, on se balade déjà en dehors de stress avec des tensions à 180, donc déjà très élevées. Et il suffit d'un petit stress pour passer à 250 de tension et avoir un événement cardiovasculaire. Donc pour un patient qui est déjà, un sujet qui est déjà hypertendu, je lui recommande d'être contrôlé en termes de sa pression artérielle. Les médicaments que nous donnons aux patients qui sont des antihypertenseurs empêchent justement l'élévation de la pression artérielle au-delà des normes lors des situations de stress. Donc du coup, s'ils sont bien soignés au préalable, le risque de développer un arrêt cardiaque lié au stress de la victoire des léopards sera minime.
D'accord. Merci docteur Yves Lubenga. Je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Bonne journée.
Bonne journée jeudi. Au revoir.